I sang to you. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio BLV 93.6 en direct depuis le lycée des Trois Sources à Bourg-les-Valence.
À l'animation, Résilda et Anaël pour vous accompagner dans cette émission et à la technique, Clément.
Au sommaire de cette émission, plein de sujets.
Nous allons aborder les violences conjugales avec un micro-trottoir réalisé par Résilda, Mayane et Iltimes.
Nous poursuivrons avec un sujet sur les troubles bipolaires avec une interview d'une infirmière de l'hôpital de Romans-sur-Isère réalisée par Alicia, Anaël et Louane.
Ensuite, une pause littéraire où nous allons découvrir la Déclaration des droits et de la femme et de la citoyenne écrite par Olympe de Gouges, une chronique réalisée par Laïni, Alejandra et Maroa.
Puis nous continuerons avec Océane, Mariam et Laura qui nous parleront de l'IVG. Ensuite, Loris, Clément et Gennaro qui nous parleront des personnes LGBT dans la société.
Et nous terminerons cette émission avec un micro-trottoir sur l'égalité homme-femme réalisé par Mélie, Mélissa et Lina. Bonne écoute.
Tout de suite, nous donnons la parole à Iltimes, Résilda, Mayane pour évoquer les violences conjugales.
Face à l'ampleur des violences conjugales, le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs pour soutenir les victimes et leur offrir une protection rapide et efficace. Parmi ces mesures, le PAC Nouveau Départ se distingue par son accompagnement global qui inclut un hébergement d'urgence, un soutien psychologique et une aide financière d'urgence pour permettre aux victimes de quitter leur domicile en toute sécurité. Ce dispositif est complété par d'autres outils de protection tels que l'ordonnance de protection, les dispositifs de signalement et le bracelet anti-rapprochement visant à renforcer la sécurité des victimes et à prévenir les risques de récidive. Ces initiatives illustrent l'engagement de l'État pour offrir aux victimes un environnement sécurisé et un soutien adapté dans l'urgence. Nous allons tout de suite écouter le micro-trottoir réalisé au sein du lycée des Trois Sources.
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la problématique suivante qui est: connaissez-vous les dispositifs mis en place afin d'aider les personnes en situation de violence conjugale?
Je pense un peu qu'il doit y avoir des numéros ou des lieux d'accueil.
Oui, effectivement. Très bien, vous me parlez de numéros. Il y a un numéro à appeler. Vous le connaissez?
Non, pas du tout.
Ok. Malgré ça, pensez-vous que ces mesures vous paraissent suffisantes ou pas?
Non, je pense pas.
Je pense pas non plus, mais ça fait quand même un premier soutien envers ces femmes.
Donc vous pensez qu'il en faudrait plus, des dispositifs?
Ouais, sûrement.
Oui, je pense aussi.
Connaissez-vous les dispositifs mis en place afin d'aider les personnes en situation de violence conjugale?
Je sais qu'il y a des numéros, mais je connais pas le... Enfin, on met pas assez en avant les informations.
C'est assez tabou, du coup. C'est difficile de s'informer vu que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, même si c'est quelque chose de grave.
D'accord, donc vous pensez qu'on n'en parle pas assez?
Oui, voilà, on n'en parle pas assez. Il faudrait mettre plus en lumière ce sujet. Dès le lycée, dès le collège, pour éviter ces situations. Sachant qu'en plus, c'est pas quelque chose d'assez rare et que ça arrive très souvent dans des foyers. Et du coup, il faudrait aider ces femmes et surtout éviter ça en éduquant les gens dès le plus jeune âge.
Dernière question, est-ce que vous pensez que les mesures mises en place sont-elles suffisantes?
Je trouve pas, parce que les femmes qui subissent ça, elles sont pas assez en confiance pour en parler. Il faudrait mettre en place plus de choses, de campagnes, de trucs à disposition pour elles, pour qu'elles se sentent en confiance et puissent en parler.
Et vous?
Oui, c'est pas assez parce que ces femmes, elles ont quand même peur et elles ont peur des répercussions que leurs maris peuvent avoir. Du coup, faut les mettre en confiance pour qu'elles puissent s'ouvrir et dénoncer ce qu'elles subissent.
Le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs pour soutenir les victimes de violences conjugales. Parmi ceux-ci, le PAC Nouveau Départ offre un accompagnement global incluant l'accès à un hébergement d'urgence, un soutien psychologique et une aide universelle d'urgence. Cette aide financière permet aux victimes de quitter leur domicile, de se mettre à l'abri et de subvenir à leurs besoins essentiels avec un traitement rapide de la demande, généralement sous 3 à 5 jours. Trois types de preuves sont requis pour bénéficier de cette aide. Une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, un dépôt de plainte auprès des autorités ou un signalement effectué par un tiers au procureur de la République.
Les victimes peuvent également bénéficier d'une ordonnance de protection qui permet de retirer l'autorité parentale au conjoint violent et d'une série de dispositifs de signalement, tels que les numéros d'urgence 17 et 3919, l'envoi de SMS au 114, l'utilisation du code MASQUE19 chez les pharmaciens ou encore le signalement en ligne. Enfin, le bracelet anti-rapprochement est un dispositif qui géolocalise l'agresseur et déclenche une alerte si ce dernier s'approche de la victime dans un périmètre défini par le juge. La victime porte un boîtier permettant d'être géolocalisée et d'alerter directement un opérateur.
En conclusion, face à l'augmentation des violences conjugales, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour aider les victimes et leur apporter du soutien. Le PAC Nouveau Départ est un de ces nombreux dispositifs. Il permet d'accéder à un hébergement d'urgence, à un suivi psychologique et une aide financière d'urgence, ce qui permet à la victime de fuir son domicile en toute sécurité. De plus, des moyens de signalement discrets, numéros d'urgence, SMS, plateformes en ligne, etc., permettent une prise en charge rapide des situations. Enfin, des mesures de protection comme l'ordonnance de protection et le bracelet anti-rapprochement sont mises en place pour assurer la sécurité des victimes. Ces dispositifs montrent l'engagement de l'État dans la lutte contre les violences conjugales en proposant des solutions adaptées à chaque situation pour garantir la sécurité, l'autonomie et la réinsertion des victimes. Merci à tous ceux qui ont participé à notre micro-trottoir.
Merci Rizilda, Mayane et Iltimes pour ce micro-trottoir. Nous allons maintenant passer le micro à Alicia, Annelle et Louane pour parler de santé mentale et en particulier de troubles bipolaires et de leur impact dans le quotidien avec leur invitée, Madame Virginie Trollier, infirmière à l'hôpital de Romans-sur-Isère.
Bonjour, nous sommes trois élèves de première en ST2S au lycée des Trois Sources, Louane, Alicia et Annelle. Nous allons vous parler du trouble de la bipolarité, qui est une maladie psychique qui touchait 40 millions de la population mondiale en 2019. Nous allons étudier ce sujet avec Virginie Trollier, infirmière à l'hôpital de Romans-sur-Isère, qui a travaillé 15 ans auparavant en psychiatrie. Bonjour Virginie.
Bonjour à tous.
Donc Virginie va nous aider à répondre à notre problématique qui est « Quelle est l'évolution de la maladie et quelles sont les conséquences sur l'individu dans son quotidien et sur l'entourage ?»
Alors. Pour commencer, qu'est-ce que la bipolarité ?
Alors, la bipolarité, c'est une maladie psychiatrique qui touche les individus de tout âge. Plutôt à l'âge adulte, la maladie se développe, commence, les premiers symptômes. On peut expliquer une maladie de l'humeur, c'est un trouble de l'humeur. Les patients, généralement, passent de phases dépressives où ils ont l'envie de rien ou par des phases aussi d'excitation où ils font beaucoup de choses et ils peuvent se mettre en danger lors de ces phases-là.
Ok. Et à quoi ressemble une crise de bipolarité ?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de crise de bipolarité, mais on peut parler de décompensation de la maladie plutôt. Donc, des patients, ils ont une humeur plutôt stable et puis à un moment donné de leur vie, quelque chose se met au travers. Ils sont plus stressés, plus angoissés, des problématiques familiales ou autres. Et là, il y a la maladie qui décompense, c'est-à-dire qu'ils font une phase dépressive ou une phase, on parle d'une phase maniaque, c'est-à-dire qu'ils... Ils font beaucoup de choses dans la journée. Ils ont une activité motrice et psychique très, très, très rapide, très intense. Et ils ne s'arrêtent jamais tout au long de la journée. Donc, ils s'épuisent à faire de multiples activités. Voilà.
Ensuite, quel impact cela a sur son quotidien ?
Eh bien, justement, sur le quotidien, ça, c'est compliqué parce que si ces patients-là sont en phase dépressive, par exemple, eh bien, le matin, ils ont du mal à se lever pour aller travailler, ils ont du mal à s'occuper de leurs enfants, s'ils en ont, ils ont du mal à faire les choses, tout simplement des choses très simples du quotidien, se lever, manger. C'est déjà très compliqué dans les phases dépressives pour ces patients-là. Et si on prend l'exemple de patients donc maniaques, dans les phases où ils sont excités, ils peuvent se mettre en danger parce que du matin au soir, ils n'arrêtent pas, ils se lèvent très tôt, ils se couchent très tard, ils n'ont jamais la sensation de fatigue. Ils peuvent se mettre en danger aussi sur le plan sexuel, sur le plan des achats. Ils vont, c'est-à-dire ils se mettent en danger sur le plan économique parce qu'ils font des achats multiples sur des choses dont ils n'ont même pas besoin. Parce que voilà, c'est la maladie, le cerveau qui est dans une... On parle de tachypsychie, pardon. C'est vraiment le cerveau qui ne s'arrête jamais de fonctionner, quoi. Voilà.
Ok. Et aussi, quel impact cela a sur son entourage ?
Eh bien, l'entourage, il est spectateur de ces variations d'humeur. Ils sont là pour accompagner, pour éviter les mises en danger, mais souvent très épuisant comme maladie, parce que les patients, souvent, s'ils prennent leur traitement correctement, ils arrivent à avoir une humeur plus ou moins équilibrée, mais ça n'empêche pas les décompensations et du coup le passage d'un état maniaque à un état dépressif. Donc l'entourage, il est là juste pour soutenir le patient dans la maladie, et ça déjà beaucoup.
Quelles sont les aides apportées à son entourage ?
Alors, les aides, il n'existe pas vraiment d'aide à proprement parler, mais il existe des associations et puis aussi sur les réseaux sociaux, des groupes de soutien, d'entraide, de pairs, de gens qui ont des personnes dans leur entourage qui ont une maladie psychiatrique, une bipolarité ou une psychose maniaco-dépressive, on appelle, et ils se soutiennent, ils se donnent des conseils et je pense que ça, c'est déjà très important. Et surtout, les structures de soins qui s'appellent les centres médico-psychologiques où les patients sont régulièrement accompagnés et où aussi on peut accompagner les familles pour leur donner des conseils ou pour les soutenir dans leur accompagnement.
Et quels sont les types de traitements pour ces personnes ?
Alors les traitements, ça s'appelle des thymorégulateurs. C'est des médicaments qui aident le patient à avoir une humeur stable, qui ne passe pas en phase dépressive ni en phase maniaque. Et puis surtout, le principal traitement, c'est l'accompagnement que peuvent proposer les centres de soins, donc comme je vous ai évoqué, centres médico-psychologiques, où les patients rencontrent psychiatres, infirmiers, psychologues, plus le traitement qu'ils prennent chez eux. Et bien, ça fait un accompagnement global qui permet aux patients de pouvoir être un peu stable dans leur maladie psychiatrique.
Et j'ai une autre question. Est-ce que tout le monde peut être touché par cette maladie ?
Oui, effectivement, ça ne préserve personne. C'est une maladie qui peut être... tout le monde peut être atteint de maladies. Rien ne nous protège de cela, en tout cas.
Ok.
Voilà.
Bah, merci, Madame Trollier, d'avoir répondu à nos questions. Et merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Nous espérons que cela vous a permis de mieux comprendre la maladie et que cela vous a permis de prendre connaissance des difficultés que peuvent subir ces personnes au quotidien.
Merci Madame Trollier, Alicia, Anaëlle et Louane pour cette interview. Nous enchaînons avec Laini, Alejandra et Marwa qui vont évoquer les droits des femmes.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment les droits des femmes ont évolué au fil des temps. Malgré les progrès, l'égalité entre les hommes et les femmes reste insuffisante aujourd'hui. Les femmes ont toujours eu moins de droits dans nos sociétés. À partir du XVIIIe siècle, on peut noter quelques petites avances. Au XVIIIe siècle, c'était impensable qu'une femme puisse avoir le même droit qu'un homme. Une des premières à dénoncer ces injustices, c'est Olympe de Gouges. En 1789, elle a créé un projet de texte législatif, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Dans ce texte, elle revendique les droits fondamentaux des femmes et aujourd'hui, son combat nous inspire encore.
Dans son postambule, oui, vous connaissez le préambule, et bien là, c'est après. Elle écrit « Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. » Elle dénonce l'exclusion des femmes dans la société et exige leur droit à l'égalité, que ce soit pour l'éducation, le mariage ou la politique. Mais son courage lui a coûté cher. Accusée de trahison, elle a été guillotinée en 1793. Mais elle a ouvert la voie pour les générations futures. D'autres femmes ont continué le combat. En France, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1944, la légalisation de la contraception dans les années 1960 et des lois pour l'égalité salariale ont été mises en place. Si tu veux en savoir plus, il y a une vidéo de Brut qui retrace ces grandes avancées. Cherche le titre « Retour sur plus de 100 ans de droits des femmes en France ». Malgré ces progrès, il reste des inégalités, comme les écarts de salaire ou les violences faites aux femmes.
Aujourd'hui, le combat d'Olympe de Gouges reste un exemple. Écrire des lois, c'est bien, mais il faut les appliquer et continuer à sensibiliser. C'est à nous et aux générations futures de reprendre le flambeau pour défendre les droits des femmes et lutter contre les injustices. Pour conclure, Olympe de Gouges nous montre bien que l'égalité ne s'obtient qu'en agissant. Des initiatives comme celle de la revue L'Arpentage littéraire nous montrent qu'on peut agir à tous les niveaux, notamment en sensibilisant à l'école à travers des activités pédagogiques et culturelles. Ces actions nous rappellent que l'égalité reste incomplète, mais qu'elle se construit jour après jour. Alors, à notre tour de faire bouger les choses.
C'est aussi une femme qui sera notre pause musicale avec Billie Eilish, Bird of Feather. It was always you. Vous écoutez Radio BLV 93.6, nous sommes en direct du lycée des Trois Sources à Bourg-les-Valence pour une émission spéciale proposée et réalisée par les premières ST2S autour des questions et de la santé et du social. Océane, Mariam et Laura vont évoquer l'avortement face à la loi à travers d'une chronique cinéma.
Bonjour, récemment on s'est posé la question comment la loi pour l'avortement a-t-elle émergé? Suite à ça, on a pu voir qu'en Allemagne, l'avortement est interdit, sauf en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. Mais aucune sanction n'est prévue pour les femmes qui ont recours jusqu'à 12 semaines de grossesse. Étant donné qu'en France, l'IVG est inscrit dans la Constitution française depuis quelques années, on a souhaité connaître l'histoire de l'IVG en France. On s'est donc intéressé au film « Le procès de Bobigny ». Le film « Le procès de Bobigny » a été réalisé par François Luciani en 2006. Il est inspiré d'une histoire vraie datant de novembre 1972, mettant en scène Léa, interprétée par l'actrice Juliette Lambolet, qui est une fille de 16 ans ayant été violée.
À la suite de cet événement, elle tombe enceinte et souhaite avorter. Mais à l'époque, l'avortement est un acte illégal. Martine, sa mère, campée par l'actrice Sandrine Bonner, va entrer en contact avec une avorteuse afin de pouvoir aider sa fille à avorter. Malheureusement, comme souvent à l'époque, les avortements clandestins, elle contracte une infection. Et donc, elle doit être amenée à l'hôpital. Pendant ce temps, l'homme qui l'a agressée est arrêté pour trafic de drogue. Pour se dédouaner, il va aller dénoncer Martine et Léa pour se venger d'elle, car il pense que c'est elle qui ont donné son nom. Ensuite aura lieu le procès de Bobigny, qui accusera Martine d'avoir fait avorter sa fille. Cette dernière demandera l'aide de Gisèle Halimi, une avocate très célèbre de l'époque, qui a participé à la fondation de l'association Choisir. Cette association lutte contre les injustices faites aux femmes. Pour nous, ce film a permis de montrer un procès important dans l'histoire.
En montrant les injustices et le courage des femmes de l'époque, pour nous, un des moments les plus importants du film et que l'on a aimé, ça a été le moment où Gisèle Halimi a convaincu Martine de la défendre, en la faisant passer pour une victime et non pour la coupable de cette affaire. Nous recommandons de regarder ce film car il était vraiment très captivant. Il permet de connaître les injustices faites aux femmes à l'époque. Ça peut paraître fou qu'une femme de jeune de 16 ans qui soit faite violer soit jugée comme coupable d'avoir avorté et qu'elle soit mise en danger pour ne pas l'avoir. Ce procès est un grand pas dans les droits des femmes, surtout pour le droit à l'avortement. En conclusion, le procès de Bobigny, c'est un hommage à celles et ceux qui ont osé défier l'injustice et fait avancer les droits des femmes. C'est grâce à ces femmes que nous avons ce droit, le droit de décider si l'on veut un enfant ou non. Sans leur combat et leur courage, rien n'aurait évolué.
Merci Mariam, Océane et Laura pour cette découverte cinématographique. Et nous allons maintenant passer la parole à Loris, Clément et Gennaro qui vont nous parler des personnes LGBT dans la société.
Bonjour, c'est Clément, Gennaro et Loris. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la représentation des LGBT dans la société.
Depuis des décennies, ces communautés se battent pour la reconnaissance de leurs droits, pour l'égalité ainsi que pour l'acceptation des LGBT dans la société.
Dans un premier temps, nous allons vous parler de l'évolution des LGBT dans la société et dans un second temps, nous vous parlerons d'un document publié par Human Rights Watch qui représente le rapport de la Commission mondiale sur l'égalité pour les personnes LGBT. Et pour finir, on parlera de comment les LGBT font-ils pour se révolter afin d'obtenir leur reconnaissance.
Tout d'abord, nous allons vous présenter les différentes significations d'après l'UNESCO des différents genres.
Le terme « gay » signifie un mot d'origine américaine utilisé le plus souvent pour désigner les hommes homosexuels.
Le terme « intersexe » signifie « personne dont les caractéristiques physiques ou biologiques ne correspondent pas aux définitions classiques de la masculinité ou de la féminité ».
Ensuite, on a le terme « homosexuel » qui signifie « personne principalement ou exclusivement attirée par les personnes du même sexe ».
Ensuite, on a le terme « transgenre » signifie « personne qui ne se reconnaît pas dans le genre associé à son sexe biologique ».
Ensuite, on a le terme pansexuel qui signifie personne ayant une attirance sexuelle et ou affective pour un être humain, pour ce qu'il est et pas pour le genre ou le sexe qu'il a.
Le terme lesbienne signifie personne, femme attirée amoureusement ou sexuellement par une autre femme.
Et pour finir, on a le terme hétérosexuel signifie personne principalement ou exclusivement attirée par des personnes du sexe opposé.
Ensuite, on a le terme asexuel qui signifie une personne qui n'a pas d'attirance sexuelle.
Et pour finir, le terme bisexuel signifie une personne attirée amoureusement ou sexuellement par des personnes des deux sexes. Maintenant, nous allons vous parler du document Human Rights Watch sur l'égalité pour les personnes LGBT.
Il met en lumière les disparités mondiales dans les droits LGBT. Par exemple, des progrès significatifs en 2013, le mariage pour tous a été instauré dans le monde. De plus, en 2013 aussi, l'adoption pour tous a été instaurée.
Or, dans des régions comme le Moyen-Orient ou encore l'Afrique et certaines parties de l'Asie, l'homosexualité reste criminalisée.
Les LGBT subissent aussi des discriminations comme par exemple des crimes de haine. Ces derniers sont aussi en hausse dans certains pays.
Des recommandations ont été proposées comme une adoption de lois anti-discrimination. Ainsi, les sensibilisations sur la diversité des genres et des orientations est ainsi apportée. Notre soutien aux organisations locales LGBT pour renforcer leur impact.
Dans ce document, plusieurs arguments en faveur des droits LGBT ont été exposés. Comme premier argument, on a les droits des personnes LGBT sont des droits humains. Et le deuxième argument est que personne ne devrait être emprisonné ou persécuté pour qu'il aime ou non pour son identité.
Maintenant, nous allons voir comment les LGBT font-ils pour se révolter.
Comme première solution, les LGBT réalisent des marches de fierté. La marche de fierté des LGBT est l'une des formes les plus visibles à l'heure actuelle. Ces marches de fierté célèbrent la diversité et revendiquent ainsi leurs droits. Par exemple, en 1969, a eu lieu les émeutes de Stonewall à New York. Ces émeutes sont considérées comme le point de départ du mouvement LGBT.
Comme deuxième solution, nous avons la mobilisation sur les réseaux sociaux. Le but de cette mobilisation est de sensibiliser sur les discriminations et les violences ou encore les lois contre les LGBT. Ou encore en mobilisant des soutiens à l'échelle mondiale en créant le hashtag TransRights à HumanRights. Ou encore créer des espaces sûrs où les membres de cette communauté peuvent s'exprimer et partager leur expérience personnelle.
Comme dernière solution, nous avons la solution de défendre leurs lois en justice. Dans plusieurs pays, des lois criminalisant l'homosexualité ou discriminant les personnes LGBT ont été contestées devant des cours nationales ou encore des cours internationales. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette chronique vous en a appris davantage sur la représentation des LGBT dans le monde.
Merci à vous. Nous allons maintenant aborder l'égalité homme-femme avec Mélissa, Mélie et Lina.
Bonjour, depuis de nombreuses années, l'égalité homme-femme est présente dans notre société. Nous allons nous pencher sur ce sujet qui n'est pas assez développé sous forme d'un micro-trottoir pour recueillir l'avis de différentes personnes sur l'égalité entre les genres.
L'égalité homme-femme est abordée dans de nombreux domaines comme le sport ou le travail de points de vue très différents. De plus, nous savons qu'en Afghanistan, les femmes ne pourront plus poursuivre des études de médecine, montrant bien que l'égalité homme-femme est un sujet d'actualité qui ne se déroule pas qu'en France.
Selon vous, c'est quoi l'égalité homme-femme ?
Eh bien, qu'ils soient traités de la même façon.
C'est que l'homme et la femme soient égaux dans divers domaines.
C'est quand les hommes et les femmes ne se différencient pas, quand ils sont égaux. Je pense qu'ils devraient avoir le même salaire, par exemple.
Que les hommes ou les femmes à poste égal gagne la même chose. Enfin, l'égalité, c'est que donc on soit un homme ou une femme en France, on a chacun les mêmes droits, les mêmes devoirs. Pas de différence, quoi. C'est des êtres humains.
Et selon vous, dans quel domaine il pourrait y avoir le plus d'inégalités ?
Dans la société actuelle, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, sauf peut-être dans les salaires, où celui des femmes est encore un peu plus bas.
Dans le travail, aussi au logement, dans les logements, pour acheter un logement.
Moi, du travail.
Comment vous pensez qu'on pourrait améliorer ces inégalités entre les hommes et les femmes ?
Eh bien, déjà, en partageant les congés, généralement, c'est beaucoup plus les femmes qui prennent des congés pour leurs enfants que les hommes. Et du coup, en fait, ça en prend en compte dans le calcul quand on dit qu'elles sont moins payées. En réalité, déjà, ça réduirait beaucoup si elles prenaient autant de congés que les hommes.
Il faudrait mettre en place des lois pour améliorer cela et faire des sortes de prévention.
En faisant peut-être des lois, je pense.
En changeant les mentalités machistes des hommes cis de 50 et plus.
En conclusion, nous pouvons dire que l'égalité des genres est un sujet qui a sensibilisé beaucoup de monde dans notre société actuelle. Certains nous ont fait remarquer que c'était un problème de mentalité, d'autres que c'était plutôt un problème de génération. Il faudrait donc aborder le sujet des égalités de genre dès le plus jeune âge afin d'améliorer l'avenir.
Merci Mélissa, Mélie et Lina pour ce micro-trottoir.
C'était une émission en direct du lycée des Trois Sources réalisée par les premiers ST2S de cette année 2024-2025.
Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés et un grand merci à notre invitée Virginie Trollier.
Merci à tous les accompagnants, Madame Leclerc, Madame Tisseron, Madame Selva et Madame Doumé.
Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Bourg-les-Valences et sur le site du lycée dès la rentrée. Merci pour votre écoute. À bientôt sur les ondes de Radio BLV et belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Maybe we should stop acting like children. I'll give you all I have, and I say, take it. I say, wake up.